Mon propos ce soir est un tout petit peu décalé. Il consiste à montrer, si possible, que cet événement de Pâques, qu'avec l'Église universelle nous célébrons aujourd'hui, la résurrection de Jésus, est une espérance qui est portée par des fidèles depuis longtemps, très très longtemps. Une espérance qui, de fait, remonte à la nuit des temps. Le texte que je vais lire, le témoignage que je vais lire, se trouve dans un livre que l'on n'étudie pas fréquemment, le livre de Job. Et c'est le chapitre 19, tout particulièrement, qui nous intéressera ce soir. Vous en trouverez le contenu à partir de la page 609 dans les Bibles qui sont devant vous. Je vous invite donc à écouter ce premier témoignage, extrait, je ne lirai pas ce chapitre dans sa totalité, mais extrait de ce chapitre 19, donc du livre de Job. Si vous voulez vous grandir à mes dépens, si vous voulez tirer argument contre moi de mon déshonneur, sachez alors que c'est Dieu qui m'accable. Je dénonce la violence dont je suis victime et personne ne répond. Il m'a barré la route et je ne peux passer. Il a couvert mes sentiers de ténèbres. Il m'a dépouillé. Il m'a brisé à tout point de vue. Et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses adversaires. Il a éloigné mes frères de moi. Je suis abandonné de mes proches. Ceux que je connais m'oublient. J'appelle mon serviteur, il ne répond plus. Je dois me mettre à le supplier. Mon haleine est repoussante pour ma femme et je provoque le dégoût de mes propres frères. Même des gamins me méprisent. Si je me lève, je suis la cible de leurs insultes. Tous ceux à qui je confiais mes secrets m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Je n'ai plus que la peau sur les os. Ayez pitié de moi. Vous, mes amis, ayez pitié. En effet, c'est la main de Dieu qui m'a frappé. Si seulement mes paroles pouvaient être écrites, si seulement elles pouvaient être enregistrées dans un livre, je voudrais qu'elles soient pour toujours gravées dans le roc avec un burin de fer, avec du plomb. Nous arrêterons là notre lecture. Job, puisqu'il s'agit donc de lui, est à bout. Il est à bout. Comme il arrive que nous-mêmes soyons à bout. Lorsque notre vie n'est plus qu'une succession sans fin d'épreuves inexplicables et que Dieu, dont nous implorons pourtant avec foi et ferveur le secours, Dieu se cache. C'est pourtant en ce moment précis que, relevant la tête, Job pousse ce cri, chapitre 19 toujours, mais au verset 25 cette fois, « Je sais que celui qui me rachète, mon Rédempteur, je sais que celui qui me rachète est vivant. » Un cri qui résonne ici comme un cri de victoire. Que s'est-il donc passé pour que Job, défait comme il l'était encore il y a quelques instants, se redresse ainsi? C'est simple, semble-t-il, au cœur de sa détresse, Job a vu une lumière surgir, une lumière qu'il a hissée d'un coup sur un véritable sommet de la foi. Je sais que celui qui me relève, que celui qui me rachète, mon Rédempteur, est vivant. Sublime assurance qui vaut bien que nous nous y arrêtions. Le temps pour nous d'en examiner tour à tour l'origine et le contenu. L'origine de cette formidable assurance d'abord. « Je sais !» dit Job. Littéralement, « moi, Le pronom personnel apparaît ici en toutes lettres, renforçant d'autant le verbe. Moi, Job, je sais. Ce qu'il évoque ici n'est donc pas seulement une vague intuition, ni un espoir fragile qu'il pourrait craindre de voir déçu. Il est devenu politiquement incorrect aujourd'hui de savoir. L'heure est au relativisme, pas partout, c'est vrai. Mais chez nous, certainement. Or, s'il est un signe distinctif du chrétien, c'est pourtant celui-ci. Lui peut dire « je sais ». Je sais. Et pourquoi ? Revenons à notre ami Job. Comment expliquer son assurance, somme toute assez inattendue dans ce contexte ? Eh bien, par une révélation divine, d'abord, et par un contexte paradoxalement favorable. Une révélation divine. Job a-t-il, comme Paul, quelques siècles plus tard, connu l'extase, ce sont ses propres mots, a-t-il lui aussi été enlevé jusqu'au troisième ciel, dans son corps ou à l'extérieur de son corps? A-t-il été enlevé au paradis, ou, comme l'apôtre, il aurait entendu des paroles inexprimables qui auraient dessillé ses yeux? Ce n'est pas impossible, mais rien dans le texte ne nous permet de l'affirmer. Ce qui est sûr, en tout cas, et que Job n'est plus le même. Ses circonstances n'ont pas changé, mais lui n'est plus le même. Celui qui tout à l'heure encore se répandait en lamentations de toutes sortes est un homme nouveau, méconnaissable. Son ton a changé, son esprit s'est musclé, sa pensée s'est élevée. Mais qu'a-t-il bien pu lui arriver qui expliquerait pareille transformation ? Aucun doute possible, Dieu lui a parlé, d'une façon ou d'une autre, et lui a dévoilé ce qui sera pour lui désormais le plus grand des réconforts, le plus solide des appuis, le plus puissant des stimulants. Celui qui le rachète, son rédempteur, est vivant, et le jour est proche où de ses yeux il le verra. Mais il y a une seconde raison de cette assurance, et c'est un contexte paradoxalement favorable. Oui, je dis bien favorable. Il lui a fallu un certain temps avant de pouvoir rendre ce lumineux témoignage. Longtemps accablé, autant par la succession d'épreuves qu'il subissait sans comprendre, que par le discours totalement à côté d'une équipe d'amis, de prétendus amis, il aurait été bien incapable d'entrevoir la moindre lueur trouer sa nuit. Mais n'est-ce pas souvent, vous qui avez un peu d'expérience, et il y en a parmi nous, n'est-ce pas souvent au creuset du malheur que la pensée s'épure, que la foi s'affine ? L'exemple de Job est à cet égard particulièrement probant. Dépouillé de tout, il n'a plus que son Dieu sur qui s'appuyer. Il n'a plus que son Dieu en qui espérer. Et c'est alors. Mais alors seulement que lui est soudainement accordée cette glorieuse révélation. Quoi qu'il puisse lui arriver, il sait maintenant que celui qui le rachète est vivant et que ses yeux le verront bientôt. Et c'est bien là l'essentiel. Les nuages sombres qui obscurcissaient sa vie se sont disloqués. Un coin de ciel bleu est apparu, d'où lui vient une lumière nouvelle qui déjà l'illumine et le transfigure. Et je dis que la leçon ici est précieuse. À tous ceux parmi nous qui n'en finissent pas de s'interroger sur le sens de leurs épreuves, voire peut-être, pour certains, de leurs souffrances, l'exemple de Job indique une piste de réflexion qui vaut d'être suivie. La plupart d'entre nous sommes ainsi faits qu'il nous faut être sévèrement secoués, criblé même parfois pour songer sérieusement à nous rapprocher de Dieu. C'est ainsi. Dès lors donc que Dieu nous veut plus près que lui, plus près de lui, pour que nous grandissions enfin dans sa connaissance et goûtions pleinement à la richesse de sa bonté, il n'a guère le choix. Il doit nous laisser passer, nous aussi, par l'épreuve. C'est la raison pour laquelle un apôtre comme Jacques a pu écrire longtemps après, et là je me réfère à sa lettre, en son chapitre 1er, les versets 2 à 4, je cite « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Je ne sais pas qui ici aurait osé écrire pareille chose. Mais Jacques, lui, le fait sous l'inspiration de l'Esprit. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous-même soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. Mais il nous faut avancer et considérer après l'origine le contenu de l'assurance nouvellement acquise de Job, son contenu. Ce que dans sa situation en apparence désespérée, le Seigneur vient de lui révéler, eh bien ce sont trois choses au moins. Un, il a un rédempteur à lui. Deux, son rédempteur est vivant. Et trois, son rédempteur interviendra sûrement en sa faveur. Et pour commencer donc, bouleversante certitude, il a un rédempteur et un rédempteur à lui. Maintenant, je sais, s'écrie-t-il, que celui qui me rachète, mon rédempteur, est vivant. Mais au fait, qu'est-ce qu'un rédempteur ? À l'époque, le rédempteur, Goël en hébreu, c'est à la fois, écrit Jules-Marcel Nicole, auteur d'un remarquable commentaire sur le livre de Job, précisément, c'est à la fois le vengeur du sang, chargé de veiller à ce que le meurtrier volontaire ne reste pas impuni, le proche parent, qui peut racheter une terre que la pauvreté vous a fait aliéner, ou qui, en épousant la veuve d'un mort, lui permet d'avoir une descendance. D'où les diverses traductions proposées selon le contexte dans lequel on rencontre ce terme « vengeur », mais aussi « défenseur », voire « sauveur ». Ainsi, l'assurance soudaine de Job est-elle d'abord de posséder quelque part une sorte de proche parent, qualifié pour, capable de et prêt à intervenir en sa faveur, que ce soit en le vengeant, ou en lui portant secours, ou les deux, il a son rédempteur à lui. Maintenant, la question se pose, qui peut donc bien être ce personnage dont Job sait désormais, sans l'ombre d'un doute, qu'il existe et qu'il peut se fier à lui pour servir ses intérêts et assurer finalement sa fortune ? La formule qui a été soufflée à Job pour qu'il ne manque pas de le décrire comme il faut est ici un indice précieux qui, une fois exploité, devrait nous permettre de répondre. « Celui qui me rachète, mon rédempteur, affirme-t-il, est vivant. » Oui, son rédempteur est vivant. Et la description qui nous est faite ici, nous renvoie immanquablement et immédiatement à une autre celle courante à l'époque de Dieu lui-même, régulièrement introduit comme celui qui vit, le vivant. Ainsi, nous comprenons que ce rédempteur attendu par Job est intimement lié à Dieu. Il est intimement lié à lui s'il ne se confond pas purement et simplement à lui, avec lui. Du coup, comment ne pas faire, nous, aujourd'hui, le lien entre ce rédempteur, justement qualifié de vivant, et Christ ? Lui dont les apôtres disent, qui veut bien les entendre, qu'il est le prince de la vie, qu'il est la source de la vie, qu'il est la vie même. Vivant donc, depuis et pour toujours. Pour moi, tout en me gardant de faire de Job un chrétien avant l'heure, je n'hésite pas à le dire, le Rédempteur dont l'existence et l'intervention imminente l'ont soudainement relevé et revigoré, alors même qu'il était au plus bas. Ce Rédempteur n'est autre que Christ. Christ en personne. Il était déjà au commencement de toute chose, nous dit l'Écriture, et il sera encore quand l'univers que nous connaissons passera. Nous pouvons donc, sans en détourner le sens, emprunter ce matin les mots mêmes de Job pour rendre compte de notre foi. Nous aussi savons que celui qui nous rachète, notre Rédempteur, est vivant. Et depuis quand ? Eh bien précisément depuis ce jour qu'avec l'Église tout entière nous commémorons aujourd'hui, ce jour glorieux entre tous, où Christ a vaincu la mort, où Christ est revenu à la vie, où Christ est ressuscité, oui, vraiment ressuscité. Oui, celui que Dieu a désigné pour intervenir en notre faveur et sceller notre salut, Christ, notre Rédempteur, est vivant. Et nous pouvons être sûrs de ceci, il fera tout ce qui lui revient d'accomplir encore, afin que l'éternité nous suffise à peine pour lui dire notre gratitude et exalter son nom. Mais le moment est venu de pousser encore notre enquête en nous interrogeant cette fois sur la nature exacte de l'intervention tant espérée de celui qui rachète. Car Job en est désormais certain, son Rédempteur va intervenir. Il est vivant et il va intervenir. Oui, mais pourquoi faire ? La réponse se trouve dans la suite de notre texte. Dans la seconde partie du verset 25, au verset 26 et au début du verset 27, je cite « il se lèvera le dernier » sur la poussière, après que ma peau aura été détruite, de ma chair je verrai Dieu, moi je le verrai, mes yeux le verront, et non pas quelqu'un d'autre. Sans prétendre là encore que cette partie du témoignage de Job est limpide, de fait elle pose de sérieux problèmes de compréhension. Je crois possible, et en l'occurrence parfaitement légitime, d'y repérer une référence à deux bienfaits majeurs attendus maintenant de son Rédempteur. D'abord, une réhabilitation définitive, et puis une faveur inouïe. Une réhabilitation définitive. Je sais, dit Job, qu'il se lèvera le dernier. Au moment le plus inattendu, donc, Job est comme secoué par une formidable certitude. Son Rédempteur, celui qui vit, son Rédempteur se lèvera. Et alors, me demanderez-vous ? Alors, eh bien, il prendra son parti et le justifiera. Lui, une bonne fois, devant les hommes, c'est son espérance. Et là, je crois qu'il est important de bien noter l'expression, la formule choisie par Job pour décrire l'avènement de son Rédempteur. Il se lèvera. À la manière d'un avocat de la défense se dressant soudain et s'avançant devant le tribunal pour réfuter les accusations portées contre son client et obtenir sa relaxe. Ou d'un juge se levant lentement pour prononcer solennellement un verdict d'acquittement irrévocable. L'espérance de Job est précise. Son Rédempteur, celui qui vit, le vivant, ne manquera pas de surgir le dernier pour plaider efficacement sa cause et obtenir sa réhabilitation. La question maintenant est celle-ci, quand cette restauration tant attendue interviendra-t-elle? Il est assez commun d'estimer que tout ce que Job espère ici s'est retrouvé bientôt grâce à l'intervention de son divin rédempteur, son honneur et sa fortune perdues. Mais n'est-ce pas négliger un indice important contenu dans son témoignage? De son rédempteur, en effet, Job nous dit nettement qu'il se lèvera, fin du verset 25, le dernier, avant de préciser, fin du verset 25 toujours, sur la terre et, début du verset 26, après que ma peau aura été détruite. D'où nous concluons qu'au moment où il parle, Job n'attend pas de son rédempteur qu'il prenne en main sa cause et le réhabilite aux yeux de tous avant ce que nous avons coutume d'appeler le dernier jour. Ainsi, l'assurance qui vient tout juste d'éclairer sa tristesse et de galvaniser sa foi est en réalité celle-ci. Après qu'il sera mort et que son corps, comme tous les autres, sera redevenu poussière, son rédempteur, qui lui vivra encore et toujours, surgira pour le justifier à jamais. Lumineuse intuition dont notre espérance à nous aujourd'hui n'est que le prolongement finalement. Mais quel prolongement ? Car ce que Job finit par entrevoir, mais d'une manière encore confuse, nous, ce soir, pouvons le contempler comme en pleine lumière. Si nous sommes de ceux qui ont placé leur confiance en Jésus et en lui seul pour les soustraire à la colère de Dieu et les destiner ainsi à la vie plutôt qu'à la mort, alors nous savons qu'il, Jésus, Christ, celui qui nous rachète, notre Rédempteur, se lèvera le dernier, se lèvera au dernier jour pour assurer notre défense et obtenir notre justification définitive. Car la parole de Dieu sur ce point est sans ambages. Après que la plupart d'entre nous, sinon tous, seront morts, à la fin des temps actuels, adviendra ce qu'elle présente comme le jugement dernier. Alors, nous dit encore la parole, tous les hommes comparaîtront ensemble devant le Seigneur de l'univers pour rendre compte de quoi ? De toutes leurs œuvres. Par quoi nous entendons de la manière dont ils se seront conduits sous le regard de Dieu jusqu'à leur mort. Autant dire que sans un bon avocat, ce jour-là, ils n'auront aucune, absolument aucune chance de s'en sortir sans un bon avocat. Certains, pourtant, s'en sortiront. Eux, ceux qui, comme Job, pourront compter alors sur l'intervention de leur Rédempteur. Autrement dit, ceux, mais ceux-là seulement, qui ici-bas, et j'espère que c'est notre cas à tous, auront eu la sagesse de se remettre à Christ seul pour les défendre et les justifier devant Dieu. Puissions-nous appartenir tous ce soir, au nombre de ces bienheureux. Le seul moyen pour nous de savoir ceci, en ce jour-là, nous ne serons pas livrés à nous-mêmes face à Dieu. Christ vivant se lèvera en Rédempteur pour prendre notre parti et obtenir de celui qui ne peut rien lui refuser et obtenir pour nous une amnistie aussi totale et définitive qu'il méritait. Comment ? En faisant valoir non pas nos prétendues belles œuvres, du linge sale pour Dieu, nous dit l'Écriture, mais plutôt en faisant valoir son chef-d'œuvre à lui, à savoir sa mort expiatoire à la croix, par laquelle, écrit l'apôtre Paul, nous qui étions pécheurs avons été à jamais parfaitement justifiés. Ce qui suivra alors, pour nous toujours, d'abord un spectacle inattendu, l'expulsion sans ménagement de notre accusateur, condamné sans appel au plus funeste des sorts. Et puis surtout, la réalisation d'un rêve, Et nous touchons là au second bienfait qu'attend Job de son Rédempteur, une faveur inouïe, qui comblera enfin son désir le plus vif et le plus profond qui a jamais brûlé en lui, voir, de ses yeux, voir son Dieu. Début du verset 27, « C'est lui que je contemplerai, exulte-t-il, et il me sera favorable. » Mes yeux le verront, et non pas ceux d'un autre. Cela fait une éternité, semble-t-il, que Dieu lui échappe, pour ainsi dire. Il l'a prié, verset 7, mais sa prière s'est perdue dans le silence accablant qui l'entoure. Si vous voulez savoir, cela fait maintenant belle lurette que du Seigneur, il ne connaît plus que les mauvais traitements. On comprend que Job ait une soif folle de retrouver son Dieu. Et voici que divinement instruit, Job sait maintenant non seulement qu'il a un Rédempteur vivant, mais encore que ce Rédempteur s'apprête à le réhabiliter. Pour lui donc, plus de doute. Ayant été déclaré juste, parfaitement juste, il pourra entrer enfin dans la présence du Seigneur et le contempler face à face. Prodigieuse faveur qui déjà le ravit, l'exalte, le transporte. Ainsi, l'angoisse fait-elle place à l'assurance. Ce Dieu qui jusqu'ici paraissait se cacher, il, Job, le verra. Et chose inouïe, il le verra, verset 27, avec ses yeux. Preuve que le témoignage de l'Esprit-Saint reçu par Job incluait aussi une allusion au moins à la résurrection des corps. Cette résurrection des corps qu'a rendu possible la résurrection de Christ. Ce que Job espère désormais, on le voit, est plus qu'une simple vision de Dieu qui l'aurait sans doute déjà comblé. C'est après qu'il en aura fini avec cette vie-ci, un mode d'existence nouveau, à la fois personnel, c'est moi, Job, qui le verrai, et corporel, avec mes yeux à moi. Un mode d'existence nouveau donc, qui, et c'est là l'essentiel, lui permettra enfin de savourer pleinement les joies abondantes et les délices éternelles que seule procure sans mesure la présence devenue tangible, sensible, du Seigneur, parce qu'immédiate. Heureux homme que ce Job. Mais que dire de nous, alors, qui voyons en clair aujourd'hui ce que lui, à son époque, ne pouvait qu'entrevoir. Heureux, incomparablement heureux, nous le sommes, à coup sûr. Nous qui, tellement plus clairement encore que notre illustre aîné, savons ceci ce soir, aussitôt après qu'aura résonné ce que la Bible nous présente comme la dernière trompette, annonçant le renouvellement de toutes choses, et en même temps que nous serons déclarés par Dieu lui-même parfaitement juste, nous revêtirons un corps nouveau, impérissable et glorieux, avec lequel nous serons invités tous à entrer tous ensemble dans la présence même du Seigneur. Quel ne sera pas alors notre bonheur ? Nos yeux le verront enfin tel qu'il est, dans la personne infiniment belle de celui qui en est à jamais, non seulement l'expression parfaite, mais encore le rayonnement glorieux, j'ai nommé Christ bien sûr. Celui qui nous rachète, notre Rédempteur. Croyez qu'ébloui comme nous le serons alors, il nous sera difficile, très difficile, de nous arracher à sa contemplation. Croyez aussi que nous aurons commencé de vivre, puisqu'il n'est de vie vraie que celle toujours abondante, que dis-je, surabondante, que communique sa communion immédiate et enrichit sa connaissance. Alors il nous faut conclure. Permettez que je le fasse très simplement en formant un double vœu. D'abord que tous ici, nous puissions dire ce soir avec Job, mais plus fort encore que lui, vu les lumières que nous avons aujourd'hui, et qu'il n'avait pas lui, je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera, le dernier, sur la poussière, après que ma peau aura été détruite. Alors je verrai Dieu. Moi, je le verrai. Mes yeux le verront. Et pas ceux de quelqu'un d'autre. Mes yeux! Et à cette fin, que nous nous assurions tous que nous nous sommes bien remis une fois pour toutes à Christ et à lui seul pour notre salut éternel. Et puis cet autre vœu, s'il plaisait à Dieu de nous éprouver, nous affliger même dans les jours, les semaines, les mois à venir, que cette formidable assurance nous accompagne, nous porte, nous transporte. Nul doute que notre témoignage alors acquérera une dimension nouvelle et que celui que nous cherchons à honorer toujours par notre conduite sera le premier, mais pas le seul, à s'en réjouir. Nous allons prier. Oui, Seigneur, nous te remercions du fond du cœur pour le privilège qui est le nôtre ce soir de pouvoir reprendre à notre compte le témoignage de Job et de l'enrichir. Et de l'enrichir de ce que nous savons de ton Fils, Jésus-Christ, de ce qu'il a réalisé en notre faveur et de ce qu'il s'apprête à réaliser en notre faveur toujours. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous avons un Rédempteur, que ce Rédempteur qui avait donné sa vie, tu l'as relevé d'entre les morts. Il est ressuscité. Oui, nous te remercions parce que ce Rédempteur vivant aujourd'hui et qui règne, revient. Et s'il revient, c'est pour prendre notre défense, plaider notre cause et s'assurer. S'assurer que nous sera accordé ce privilège qu'entrevoyait Job déjà, difficilement descriptible, celui d'entrer dans ta présence immédiate et de goûter là un bonheur que nous ne pouvons pas imaginer. Seigneur, merci pour ton Fils, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Merci pour notre défenseur, notre avocat, notre Rédempteur, par qui nous avons la vie éternelle. Amen.